Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi est quand vous voulez, où vous voulez.
Voilà, nous démarrons cette émission avec ce sujet. Nous parlons de la perforation intestinale avec Dr Benjamin Alinga du service de médecine interne, à la clinique Ngalima. Encore une fois, docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quoi la perforation intestinale?
Bien, perforation intestinale, c'est comme le mot le dit, c'est la perforation de l'intestin. Oui. Il faudrait que je puisse faire une mise au point ici.
Tout à fait.
C'est une entité clinique qui est prise en charge en chirurgie, c'est-à-dire prise en charge par les chirurgiens.
Oui.
Si nous sommes venus ici, c'est pour préciser une des causes assez importantes de la perforation intestinale qui est la fièvre typhoïde. Bien sûr, il y a plusieurs causes, mais cette entité perforation intestinale est prise en charge par les chirurgiens.
Voilà. Donc la fièvre typhoïde peut entraîner la perforation des intestins. Et comment ça se passe concrètement?
Exact. La fièvre typhoïde, c'est une des causes des perforations intestinales. Et c'est une complication, en fait, dans l'évolution classique de la maladie qu'on appelle fièvre typhoïde. C'est une maladie qui est causée par un bacille, un bacille gram négatif, qui est mobile, qui est cilié, qu'on appelle le bacille de Baer.
Le bacille de
Baer. Ou les microbes.
Yeah.
Les microbes s'appellent bacille de Baer. Ou les salmonelles typhiques.
Lui, c'est non scientifique.
Voilà, ça sont ces noms scientifiques.
Oui.
Il y a plusieurs sérotypes. Les bacilles de Baer fait la fièvre typhoïde majeure. Et c'est celle-là qui nous conduit à cette complication, à cette redoutable complication, perforation intestinale. Il y a des formes mineures qu'on appelle les salmonella paratyphiques. Ça, c'est pas l'objet de notre émission.
Alors, on peut affirmer que la fièvre typhoïde, ces microbes attaquent beaucoup plus le ventre.
Essentiellement, parce que là, il faut essayer de présenter comment les choses évoluent. Donc, ces microbes, lorsqu'il est ingéré, il est ingéré par, et là je parle de l'épidémiologie, donc les moyens par lesquels on arrive à contracter cette maladie. C'est soit de l'eau qui est souillée par ces microbes, soit des aliments contaminés par les selles des personnes malades, parce qu'il faut signaler ici que les réservoirs de ces microbes, c'est l'homme lui-même. L'homme est le réservoir de ces microbes, et lorsque les conditions d'hygiène de l'environnement et même la manipulation des aliments n'est pas très très bien assurée, on contracte cette maladie et les microbes traversent les tubes digestifs. Il arrive au niveau des ganglions, au niveau des intestins, dans la région qu'on appelle les ganglions mésentériques. Là, il se met à se multiplier.
Par exemple, les aliments qu'on vend dans nos rues à Kinshasa qui ne sont pas couverts, et la poussière à tout moment, ça peut également causer cette maladie-là.
Gros moyen de contamination. Lorsque ces aliments ne sont pas très bien protégés, et lorsqu'on les prend à froid, très souvent, ce sont des aliments qui sont déjà contaminés, et très souvent, on attrape soit les bacilles de Baer, soit les formes mineures, parce qu'il y a beaucoup de sérotypes, et ça dépend de quelle souche dont on est contaminé, et on va présenter des tableaux cliniques en rapport avec la souche.
Mais on dit souvent que si les aliments sont bien chauffés, il n'y a pas de problème, la chaleur va tuer les microbes.
Généralement. Donc, l'idéal ici, et là nous parlons déjà de la prévention, de ces choses-là, l'idéal c'est de bien traiter les aliments qu'on expose dans la rue, les aliments, pour ceux qui utilisent les crudités, il faut bien les laver, il faut bien les nettoyer. Bref, il faut un minimum de conditions d'hygiène pour prévenir cette maladie, parce que c'est une maladie de la main sale, comme on l'appelle.
Voilà, revenons à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Lorsque ce microbe arrive au niveau des intestins, qu'est-ce qui arrive après?
Voilà, je disais, les microbes élisent domicile au niveau des ganglions, au niveau des mésentères, et là, ils se multiplient. Après, ils vont se déverser dans le sang par le biais de la rate, un organe qu'on appelle la rate. Et de là, ils vont se disperser à travers tout le corps, et ils vont se localiser dans certains endroits spécifiques, au niveau des ganglions, comme nous avons dit, au niveau de la rate, mais également au niveau de la bile, au niveau de la vésicule biliaire, qui est un petit organe en dessous du foie. Et c'est un excellent milieu de culture pour les bacilles. Et là, les microbes vont commencer à envoyer une substance, parce que les microbes, à lui seul, il ne fait pas la maladie. C'est cette substance-là qu'on appelle l'endotoxine qui va circuler dans tous les corps et créer des complications sur l'ensemble de l'organisme, principalement au niveau des intestins.
Parce que souvent les gens disent Nado Kamoto Nalibumu, les gens ils font une chaleur au niveau du ventre ou bien au niveau des pieds. Et c'est comme ça que se manifeste souvent cette maladie.
Exact. Cette maladie a des manifestations qui évoluent selon les périodes. Ça évolue en septennaire, comme on dit.
Oui.
La période d'incubation, c'est-à-dire la période qui suit l'ingestion du microbe et sa multiplication, cette période elle est un peu insidieuse, avec des signes qui sont atypiques. Vous avez des malaises comme ça que vous ne savez pas très bien préciser. Mais à partir de la troisième semaine, les choses commencent à se préciser.
Parce que parfois, les gens éprouvent des difficultés, vous allez à l'hôpital, on vous dit que c'est la malaria, vous faites des examens et c'est la malaria, et puis ça perdure, ça continue, mais... Après, on se rend compte que ce n'est pas de la malaria.
Exact. C'est-à-dire qu'il faut interroger correctement votre malade, quand ça a commencé, comment il ressent. Ensuite, il faut l'examiner correctement. Surtout quand on en arrive à ce stade de complications, c'est-à-dire la perforation intestinale. Quand on en arrive là, à ce moment-là, les signes sont presque évidents. Les signes sont évidents. Je disais tout au début, il y a ces malaises-là. Ensuite, la fièvre va commencer à monter. La maladie s'appelle fièvre typhoïde. Donc, une des caractéristiques principales, c'est la fièvre. Une forte fièvre qui monte tout au début, qui monte, jusqu'à atteindre parfois 40 degrés.
Et qui baisse pas.
Il est en plateau. On l'appelle fièvre en plateau.
Oui.
Mais une caractéristique principale, c'est qu'il la différencie justement de la malaria, c'est que la fièvre monte, mais ce que nous appelons les pulsations ne montent pas. La fièvre monte, mais les pulsations ne montent pas. Ça, c'est la particularité de cette maladie.
Les pulsations, c'est comment ?
Pulsations, c'est le battement du cœur qui se transmet au niveau des artères périphériques, principalement au niveau du radius. Les médecins, lorsqu'ils vous examinent, ils palpent et il est synchrone. Les pulsations sont synchrones au battement du cœur. Donc, c'est la traduction du battement du cœur au niveau des artères périphériques. Mais là, lorsque quelqu'un fait la fièvre, les pulsations devraient augmenter. Donc, à chaque battement, degré d'augmentation des températures, les pulsations augmentent de 10, normalement. Mais pour cette maladie ici, les pulsations ne montent pas.
Oui.
C'est pour ça que nous parlons d'une dissociation pour température. Et ça, c'est la caractéristique de cette maladie.
Voilà. Et disons que cette substance qui est déversée au niveau des intestins attaque maintenant
les différents organes.
Et occasionne des trous. Ça va trouver même les intestins.
Exact. J'en arrive. Oui. Principalement au niveau des intestins, dans une partie spécifique, la deuxième portion des intestins grêles. Là, il y a des structures anatomiques qu'on appelle les plaques de Peyer. Vous allez constater que ces plaques vont s'ulcérer jusqu'à atteindre la musculaire et parfois aller jusqu'à la perforation.
On y revient, le temps de recueillir la question des auditeurs, des questions, des réactions, composez le 081-893-94.
Réponse à vos réactions, questions ou suggestions avec l'invité de Capitardi.
Nous avons en ligne Guy Inkobo de Kinshasa et Soukinembo depuis Kalima au Maniema. Guy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à Dr. Nzane.
Votre question ?
Docteur, je voudrais poser la question parce que j'ai observé que dans la partie est de notre ville de Kinshasa, il y a le taux de ces cas-là de perforation qui est vraiment élevé. D'abord, je voudrais savoir si vous avez aussi observé que chez vous, à la partie ouest, parce que vous êtes en Galima, est-ce que le taux est aussi élevé aussi que dans la partie est, donc je parle du côté de Achango, vous qui êtes en Nyamba. Et ensuite, je voudrais savoir quels sont les facteurs de contamination qui font que là-bas, c'est vraiment plus élevé, parce que dans l'hôpital où je travaille, le taux de cas de perforation est plus élevé que des appendicites et des hernies que nous recevons dans notre service de chirurgie. Okay?
Merci Guy,
merci, docteur. Merci. Merci beaucoup, monsieur Guy. Les taux sont élevés dans la partie est, c'est vrai, plutôt que dans d'autres parties. Ici, je voudrais vraiment m'excuser. Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur les statistiques de la ville, mais je sais que c'est une maladie des mains sales et que les conditions d'hygiène défectueuses, en général, constituent les facteurs les plus importants dans la contamination. Et donc la prophylaxie elle est importante, l'observation de l'hygiène individuelle et de l'hygiène collective et la manipulation de nos aliments, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans les marchés, que ce soit un peu partout individuellement, nous devrions prendre des mesures d'hygiène personnelle pour prévenir ces genres, cette complication redoutable qui parfois ne laisse très peu de temps aux médecins d'intervenir.
Voilà, Soupignembo, depuis Kalima, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capitale de Tartan qui nous entendent en présent. Je présente maintenant mes questions. Je dis ma première question. Quels sont les signes qui apparaissent aux hommes qui ont cette maladie, la fièvre? Deuxièmement, je dis ceci. Si vous avez cette maladie, vous êtes à la maison, vous n'avez pas de moyens, vous restez longtemps à la maison, est-ce que après combien des années ou combien de mois passés, vous serez mort? Voilà mes deux questions, monsieur le journaliste.
Très bien, merci beaucoup, monsieur Prince.
Non, c'est monsieur Soupi.
Ah, monsieur
Soupignembo.
Soupignembo.
Oui.
Très bien, merci beaucoup pour ta question. Quels sont les signes de cette maladie? Cette maladie évolue en stade, comme je l'ai dit, il y a une période d'incubation qui dure environ 1 à 3 semaines. Là, vous avez des signes qui sont non spécifiques, vous avez des malaises mal définis, ainsi de suite, vous ne saurez pas. Ensuite, il y a une période d'invasion où vous avez la constipation, vous avez parfois une douleur au bas-ventre du côté droit, vous avez la température qui commence à monter jusqu'à atteindre 40 degrés en 5-6 jours, et ensuite, vous avez cette particularité, une dissociation pour température. Et ensuite, arrive la période d'état. C'est cette période qui... où la maladie s'exprime. Et c'est à cette période que vous avez cette substance qui se déverse dans tous les sangs. Et là, vous avez la fièvre qui reste en plateau, qui ne baisse pas. Vous avez, tardivement, vous avez cet état qu'on appelle le typhus, qui a même donné son nom à la maladie, c'est-à-dire un état caractérisé par une adynamie, une stupeur. La personne est prostrée. C'est des termes techniques, c'est vrai. La personne est devenue vraiment faible, elle ne sait pas. Elle est adynamique. Ça, c'est également un stade d'évolution. Au niveau de la peau, vous avez... Chez les personnes à peau claire, vous avez des signes cutanés également que vous pouvez constater. Vous avez au niveau dans la bouche, vous avez une particularité qu'on appelle une angine particulière. Vous avez des ulcérations au niveau de la voile du palais qu'on appelle angine de Duguay. Vous avez la langue qui est sèche en général, une langue rôtie. Vous avez la race qui généralement prend des volumes, le foie, ainsi de suite. Bref, un ensemble de signes qui montrent qu'effectivement la maladie est là.
Oui. Voilà, ce sont les signes. Et il demandait si ça pouvait aussi, après combien de temps la personne peut décéder.
La personne peut décéder. Généralement, la mort survient dans les complications. Les complications comme la perforation, 3 semaines, 4 semaines plus tard, la perforation peut
entraîner la mort. Prince Ibrahim, depuis Kindou, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voudrais poser la question. Bonjour d'abord à l'invité. Je voudrais poser la question à l'invité de savoir est-ce que la fièvre typhoïde peut être à la base du gonflement ou ballonnement du ventre. Merci.
Bien, merci beaucoup, monsieur Prince. Exact. La fièvre typhoïde peut entraîner le ballonnement des ventres justement lorsque elle entraîne cette fameuse redoutable complication des perforations. Parce que lorsque vous avez cette perforation, vous avez une douleur au niveau du ventre, vous avez une contracture des muscles au niveau du ventre, vous avez le ventre qui est ballonné, qui devient très sensible de façon diffuse, vous avez la fièvre, vous avez d'autres signes, notamment paracliniques, lorsque vous faites un examen de radio, du ventre, vous avez un croissant d'heure en dessous du diaphragme qui signe effectivement qu'il y a une perforation. Et la particularité de la perforation due à la fièvre typhoïde, c'est qu'elles sont multiples. Elles sont multiples, ce sont des petites perforations comme ça, et là, c'est les chirurgiens qui obligatoirement,
il faut couper,
doit opérer. Il doit opérer, c'est pour ça que je dis, la prise en charge est faite en chirurgie.
Alors quand on opère, on doit couper la partie
perforée. Absolument, il faut une résection avec une... résection, ça signifie qu'ils coupent,
oui.
Et puis ils vont remettre bout en bout.
Voilà, Baudouin Moutanda nous appelle de Colosie, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui Daniel Kassama, bonjour aussi à notre invité.
Bonjour Monsieur Baudouin.
Et je voudrais bien poser la question au docteur. En cas de perforation intestinale, donc les sécrétions qui vont sortir, c'est-à-dire le pus, ça peut atteindre le péritoine. Donc ça peut endommager le péritoine. Alors en cas d'opération, comment est-ce qu'on peut le péritoine va se reconstituer ou ça va disparaître comme ça?
Très bien. Lorsque cette perforation survient, c'est vrai, je ne suis pas chirurgien, mais les chirurgiens seraient plus à l'aise à répondre à cette question. Mais lorsque cette complication survient, les chirurgiens ouvrent l'abdomen, il va retrouver la perforation, il va enlever la partie perforée, il fait son anastomose bout en bout, mais il ne fait pas que ça. Comme vous le dites bien, les produits à l'intérieur de l'intestin vont sortir et endommager les péritoines. On va nettoyer les péritoines, il nettoie généralement avec
un gel. Les péritoines, c'est quoi?
Les péritoines, c'est cette feuillère qui recouvre tous les organes intra-abdominaux.
Ok.
Ah, c'est ça le péritoine.
Donc il faut nettoyer complètement.
On nettoie complètement avec du sérum physiologique chauffé. Il nettoie et puis il referme.
Voilà. Nous avons en ligne Mavé, ils sont des Canada. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Allez-y.
D'accord. Parce que je vais poser la question, ça va. Quel est l'idéal préventif ou le moyen préventif que nous pouvons appliquer à cette survenue de cette maladie? Puisque c'est un cas qui est concrètement constaté ici à Kananga. Beaucoup de gens souffrent de cette maladie, mais au niveau de la réponse ou sur les moyens préventifs que le docteur peut nous donner, quelles sont les stratégies que nous pouvons appliquer à cette question?
Très bonne question. Ici, c'est de la prophylaxie, de la prévention. Et c'est ça la meilleure médecine. Merci beaucoup pour ta question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une déclaration obligatoire. Parce que la maladie peut évoluer parfois sous un mode endémique. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question vers les Tchangou. Pourquoi cette recrudescence de cette maladie dans certaines régions?
Oui.
Elle évolue parfois sous le mode endémique. Il faut une déclaration obligatoire. Lorsque vous avez un cas, il faut le déclarer. Chez les enfants, par exemple, il faut pas qu'ils partent à l'école. Il faut une éviction scolaire. Il faut une enquête sur la source de contamination. Qu'est-ce qui est à la base de la source de contamination? Il faut stériliser les selles et les urines des personnes malades en utilisant certaines substances, par exemple les sulfates de cuivre à 5% ou les chlorides de chaux à 2%. Il faut un dépistage et un traitement des personnes saines, des personnes, des porteurs sains. Parce que les réservoirs de la maladie, j'ai dit, c'est l'homme. Il faut des mesures générales d'hygiène et surtout les mesures pour éviter la contamination de l'eau polluée et des aliments, notamment du lait, des mollusques. Il faut se laver les mains après s'être
allé aux toilettes.
Il faut se laver les mains. Il faut la désinfection à l'eau de javel, par exemple des noms sanitaires, des plans de cuisine. Il faut de la vaccination également. La vaccination.
Il y a un vaccin
qui existe. Un vaccin à donner aux personnes adultes et aux enfants au-delà de 5 ans. Surtout ceux qui vont dans les zones où cette maladie sévit, sous des modes épidémiques ou dans les régions où cette maladie sévit sous les modes endémiques. Surtout dans les pays africains, les pays de l'Asie du Sud-Est, les pays de l'Amérique latine, c'est là où nous retrouvons le plus de cas de ces maladies. Il faut dire que c'est la maladie des pays en voie de développement.
En voie de développement.
La France connaît de l'information sportive sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dieudonné Kabeyangalula, qui fonce vers le micro et le passe à Kalis Mukomo Chambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Kesson Mulumba l'attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Nous parlons aujourd'hui de la perforation intestinale, cause et prévention, avec Dr Benjamin Alinga, du service de médecine interne clinique de Lima. Quels d'autres auditeurs sont en ligne? Jean Balima, depuis Kalima, et Rachidi Muyumba, de Kalimi. Jean, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour les docteurs hein, et l'invité. Je voulais savoir quel genre de médicaments spécifiques pour guérir ce genre de maladies. Et encore, quelles sont les précautions pour éviter ce genre de maladies?
Très bien. Je vais commencer par les précautions. Je venais d'en parler tout à l'heure. Il faut en général une déclaration obligatoire et il faut un dépistage et le traitement des personnes qui portent les germes, qu'on les appelle les porteurs sains. Il faut observer les mesures générales d'hygiène individuelle et collective. Nous devons veiller sur les alimentations, notre alimentation et nos boissons, mais également nous devons penser à la vaccination lorsque nous effectuons des déplacements en zone endémique. Les médicaments à donner, il y en a plein, c'est principalement les antibiotiques. Principalement les antibiotiques, et les antibiotiques, il y en a plein, ce n'est peut-être pas l'objet ici dans cette émission.
Oui, Rachidi Muyumba de Kalimi, bonjour.
Bonjour Kachama, bonjour à notre invité.
Bonjour.
Ma question c'est de savoir si tu peux un peu nous donner les signes distinctifs qu'on peut trouver sur le paludisme et du chef de typhoïde. Ça c'est la première question. La deuxième question, exactement, quel examen spécifique qu'on peut déceler pour trouver un cas en main? Ça c'est le cas du paludisme ou soit ça c'est le cas du ST?
Exact, très bonne question également parce que dans la ville, dans notre pays, c'est tout le monde qui souffre à la fois de ces deux maladies. Ah voilà, on m'a attrapé avec et la malaria et la
typhoïde.
C'est possible qu'il y ait cette association que nous appelons association morbide. C'est possible, mais c'est assez rare, très souvent. Les deux questions sont un peu liées. Quels sont les signes distinctifs? Je vais commencer par la malaria parce que là c'est plus simple.
Oui.
La malaria, c'est vous avez la fièvre, une fièvre qui a une caractéristique, c'est une fièvre intermittente, c'est-à-dire elle augmente, elle baisse, et selon également les types ou l'espèce du plasmodium qui vous est infecté. Dans notre milieu ici, c'est principalement les falciparum. Mais les autres espèces donnent une fièvre d'une autre caractéristique. Ça, c'est les premiers signes distinctifs. Deuxième signe, vous avez des douleurs au niveau des muscles, vous avez des douleurs au niveau des articulations, les myalgies, les polyarthralgies. Ça, c'est en cas de malaria. Vous avez des maux de tête assez violents.
Mmh.
Et ça, c'est la malaria qu'on appelle accès simple. Sans oublier qu'il y a des formes graves de malaria qui sont définies par un critère qui existe. Le médecin saura faire la différence de l'accès simple et des accès pernicieux, comme on dit, les formes graves.
Par contre, la fièvre typhoïde,
évolue en stade. En stade, il y a trois stades. Nous avons parlé de l'incubation, nous avons parlé de l'invasion et nous avons parlé de la période d'état. La période d'état, c'est cette période où la maladie se manifeste par plusieurs signes, principalement la fièvre qui est en plateau.
Qui
ne baisse pas. Différemment
de la malaria,
de la malaria
qui baisse
et qui monte des temps. Voilà, une fièvre intermittente.
Oui.
Vous avez également d'autres signes, les signes, principalement les signes abdominaux. Vous avez une douleur au niveau du ventre, vous avez la constipation qui est relayée par la diarrhée.
Les amibes aussi peuvent causer la perforation des intestins.
Exact. Ici, nous parlons essentiellement de la perforation typhique. Sans oublier qu'il y a plusieurs causes des perforations intestinales. Il y en a plusieurs.
Oui.
Mais ici, nous insistons sur la fièvre typhoïde. Parce que elle paraît être la plus fréquente.
Alors quel est l'examen spécifique?
Quel est l'examen spécifique? Plusieurs examens à faire. On peut commencer par l'énumération de la fourmi sanguine, les examens de sang, courant. Généralement, en cas de fièvre typhoïde, vous avez une baisse du taux de globules blancs, ce que nous appelons une glycopénie. C'est vrai, ce n'est pas assez constant. Et lorsque vous avez le taux de globules blancs qui augmente, c'est qu'il y a déjà une complication, genre perforation.
Mm.
Ça, c'est un élément. Vous pouvez faire un examen qui est assez fréquent ici, l'examen du vidal. Hein, c'est une sérologie, un examen sérologique où vous dosez les anticorps, deux principalement, contre deux antigènes de ces germes-là. Vous dosez ces anticorps-là et vous allez, le laboratoire va lire, il va répondre au médecin où les TO sont augmentés, où les TH sont augmentés. Là aussi, il y a un problème d'interprétation de ces résultats et également des réactions croisées qu'il y a pour dire qu'il y a des faux. Positif. Parfois, les gens qui se font soigner comme fièvre typhoïde, mais en réalité, ils ne le sont pas à cause des réactions croisées qui se passent pour ces examens. Il y a l'examen clé qui peut affirmer les diagnostics, ce sont les hémocultures, c'est-à-dire le prélèvement des sang. Et qu'on va amener au laboratoire, on va les cultiver dans des milieux spécifiques et cet examen va identifier les germes et va donner également l'antibiotique. Lorsqu'il est couplé à l'antibiogramme, il va donner l'antibiotique qu'il faut pour traiter ces microbes-là. Il y a également la coproculture qu'on peut faire et il y a d'autres examens de radio-échographie lors des complications.
Voilà, docteur Benjamin Alinga, du service de médecine interne à la clinique d'Alima. Je vous remercie.
Merci.